Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Nous allons bien sûr suivre la nouvelle conférence de presse de Jean Castex, entouré d'une partie de son gouvernement. Le Premier ministre qui va nous donner les dernières informations sur l'épidémie, sur la pression hospitalière aussi comme on dit, avec des services de réanimation qui se remplissent lentement mais très sûrement. Et puis tiens, on apprend à l'instant qu'on va reconfiner à Mayotte 3 semaines au moins. Hop, c'est parti, c'est reparti. C'est évidemment un des sujets que nous aborderons avec Axel Kahn, le président de la Ligue contre le cancer. Ça sera à 18h15. Et puis à 18h40, après l'œil de Philippe Cavrivière, un événement musical puisque Slimane, champion 2020 des ventes de disques en France, sera avec nous ici en direct. Mais tout de suite, Amandine Dégot, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Les autres grands titres de l'actualité de ce jeudi 4 février.
Et dans un tout petit instant, on vous emmène dans le Lot-et-Garonne, la région encore sous les eaux. Ce soir, certaines communes, vous l'entendrez, ne sont accessibles qu'en barque. Reportage édifiant. Ce sera dans un instant. Dans ce journal également, peut-être bientôt du nouveau sur les bouteilles de vin. Et puis les avocats, eux, pourraient bien remplacer les juges en cas de besoin. Les avocats qui remplacent les juges. C'est l'idée lancée par le garde des Sceaux pour désengorger les palais de justice.
La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Demain, c'est bon, pas grand-chose de différent par rapport à aujourd'hui.
Exactement, hein. On va conserver la même bande nuageuse, faiblement pluvieuse entre l'Aquitaine et le Nord-Est. De part et d'autre, beaucoup de nuages, mais aussi quelques éclaircies sur le Nord-Ouest, surtout vers la Bretagne, les Pyrénées le matin, jusqu'au midi toulousain l'après-midi et en Corse. En revanche, ça restera couvert avec des pluies et beaucoup de vent sur le golfe du Lion. Les températures seront encore douces, l'après-midi de 9 à 17 degrés. Et je rappelle, encore 14 départements en vigilance orange crue. Le Lot-et-Garonne est passé du rouge à l'orange.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et justement.
Et d'abord justement, oui, direction le sud-ouest. Peggy le disait à l'instant, hein, l'alerte rouge a été levée dans le Lot-et-Garonne, mais la situation par endroit reste compliquée. C'est le cas notamment à Couture-sur-Garonne, une commune complètement coupée du monde encore ce soir. Seul moyen d'y accéder, Denis Grandjou, en barque.
Oui, j'ai embarqué sur la petite barque en bois de Louis. Il a presque 70 ans, il est avec sa femme et leur amie de toujours, Françoise.
Tu te mets où toi?
C'est la première fois que je viens dans une commune du Lot-et-Garonne en bateau, j'avoue.
Ah bon? Mais n'ayez pas peur.
C'est parti pour 7 à 8 minutes sur l'eau. On arrive dans la rue principale de Couture avec l'impression d'être à Venise.
Et moi je sais pas nager, hein. Ah, oh, c'est impressionnant, oui.
Normalement on passe en voiture là.
Oui, c'est la route.
Françoise n'est pas rentrée chez elle depuis 4 jours. Sa maison est totalement isolée au milieu de ce qui ressemble à un lac. Elle est où votre maison là?
C'est celle-là à droite. Moi j'appréhende un petit peu.
On va rentrer, oui, attends, on va rentrer voir.
Apparemment, je n'ai pas d'eau dedans.
Tu vas remplir les bottes.
C'était limite. Dès qu'il y a une inondation, de toute façon, les gens sont très solidaires entre eux. Moi, je vois, il y a des gens qui m'ont téléphoné, mais Françoise, allez, t'inquiète pas, on viendra t'aider à nettoyer et tout.
Un nettoyage qui pourra commencer quand la Garonne retrouvera son lit d'ici quelques jours, mais personne ne sait quand.
Bon, écoute, je suis contente.
On va y aller voir.
À Couture-sur-Garonne, reportage impressionnant, oui, signé Denis Grandjou pour RTL. Alors, la Garonne a dépassé les 10 mètres hein, par endroit, notamment à Marmande. C'est du jamais vu depuis 40 ans. Jean Castex se rendra demain sur place pour y rencontrer les élus des communes sinistrées.
Et pour l'instant, à l'heure où l'on se parle, le Premier ministre est au ministère de la Santé où il tient sa conférence de presse qui vient à peine de débuter.
Le gouvernement qui annonce un reconfinement pour Mayotte et ce, au moins pour 3 semaines. Mais a priori, pour la métropole, pas de nouvelles restrictions, plutôt un appel à la vigilance. On n'assiste pas pour l'instant à une flambée de l'épidémie. Toutefois, certains services commencent à être surchargés. On vous l'annonçait dès ce matin sur RTL. Les déprogrammations se multiplient et pas seulement en Ile-de-France. Écoutez, Frédéric Valtou, il préside la Fédération hospitalière de France.
On a, dans certaines régions, des transferts de patients, des déprogrammations qui ont repris et qui permettent de retrouver des places pour pas se faire submerger. Il y a des transferts de patients depuis PACA, depuis Bourgogne-Franche-Comté, depuis certains départements de Rhône-Alpes, depuis Grand Est. Soit c'est les transferts, soit c'est la déprogrammation, c'est les deux seuls leviers. Moi, chez moi, à Fontainebleau, donc en Ile-de-France, ça fait une quinzaine de jours que les premières déprogrammations reprises. Voir une marée qui monte, même si elle monte très lentement, c'est des perspectives qui peuvent être inquiétantes. Donc, il y a une pression qui est très forte et l'angoisse, elle est réelle.
Et Frédéric Valtou, le président de la Fédération hospitalière de France, joint pour RTL par Agathe Landais. Parmi les pistes pour tenter de freiner cette épidémie, le gouvernement compte bien durcir le ton à l'égard du télétravail. C'est censé être la règle, censés, car dans les faits, Julien Fautra, tout le monde ne joue pas vraiment le jeu. C'est ce que vous avez pu constater dans le quartier de la Défense, près de Paris.
Oui, parce que pour beaucoup de salariés, le télétravail à 100%, c'est insupportable. Patricia, par exemple.
Je désobéis. Vous savez, d'être derrière l'écran de son ordinateur, toute la journée, c'est pas drôle. On a besoin, en fait, de rencontrer ses collègues, d'aller prendre un café ensemble, de déjeuner ensemble. Là, on est en train de sacrifier plein de choses et on va avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Il y a plein de gens qui sont déprimés. On n'y fait pas attention à ça.
Elle désobéit, Patricia, mais elle n'est pas la seule. Au lieu de 2 jours, comme c'est prévu dans son entreprise, Mamadou vient finalement toute la semaine.
On finit par ne pas trop faire la différence entre travail et maison. Tu finis forcément par être dans le canapé, pour finir on se met dans le lit et c'est pas bon du tout.
Difficile selon lui de se concentrer chez soi. Damien a lui du mal à supporter la cohabitation permanente, la survie de son couple en dépend.
Quand on a du monde à la maison, en plus de ça, des travaux, etc., enfin, du bruit tout le temps, plus ça va et plus ça devient, je dirais, un petit peu lassant.
Et dans certaines entreprises, on doit s'inscrire sur un document pour pouvoir venir un jour ou deux par semaine. Il faut être à l'affût donc pour réserver son siège, car il n'y en a pas pour tout le monde.
Un reportage signé Julien Fautra à la Défense. Emmanuel Macron, lui, présentait tout à l'heure le nouveau plan cancer pour les 10 ans qui viennent. Le chef de l'État qui a fixé un objectif, il veut parvenir à une génération sans tabac d'ici 2030.
Quant à l'alcool, à l'origine, on le rappelle, d'un cancer sur 5, il souhaite renforcer la prévention.
Il ne s'agit pas d'aller vers le zéro alcool, mais bien de prévenir les excès. À l'image de ceux que nous avons fait pour les aliments, nous donnerons des repères à la fois plus visibles et plus lisibles aux consommateurs sur chaque produit.
Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
On vient d'entendre Emmanuel Macron évoquer ses repères qui pourraient apparaître sur les bouteilles. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des étiquettes « l'alcool tue » comme on a eu « fumée tue » ?
Non, en tout cas sur les bouteilles de vin, c'est sûr ça n'existera pas. L'Union européenne a précisé qu'il n'en était pas question. Et chez nous aussi, c'est plus facile de lutter contre le tabac que de s'attaquer à l'alcool. D'ailleurs, dans son discours, Emmanuel Macron l'a dit sans chichi. Les alcools produits en France font partie de nos traditions, de notre art de vivre. Quand il est arrivé à l'Élysée, les associations de prévention lui avaient reproché de nommer une conseillère agriculture un peu trop proche de la filière viticole. Et il y a un an, le gouvernement avait abandonné l'idée de soutenir officiellement l'opération Janvier sans alcool, le Dry January. C'est aussi, il faut le dire, une histoire de gros sous et de prestige. On produit plus de 4 milliards de litres de vin par an en France. Et quand Emmanuel Macron voyage en Chine, il offre une bouteille de Romanée Conti à son homologue Xi Jinping. Tout est résumé. Donc, pour ces futures mesures de prévention, est-ce que ça pourrait concerner les bières ou alors principalement les alcools forts, par exemple? On n'a pas les précisions ce soir, mais on comprend que tout sera une question de dosage.
William Galibert du service politique de RTL. Et une première réaction ce soir, celle du professeur Benyamina, le président de la Fédération française d'addictologie. Il met justement en garde contre le poids des lobbies en la matière.
Ma première réaction, c'est tant mieux, le président de la République, pour une fois, parle de l'alcool dans une démarche de prévention. Ce qui me chagrine un peu, c'est que je ne sais pas le contenu de ces annonces d'aujourd'hui. On a parlé d'étiquetage, on a parlé d'alcoolisme, on a parlé de lutte contre la dépendance. Tout est à faire. Pour éviter d'arriver au cancer, c'est tout ce qui est en amont et tout ce qui est après, c'est-à-dire la prévention primaire. Parler du risque alcool, dire ce que c'est que l'alcool et surtout faire attention à ne pas se laisser étouffer par des arguments fallacieux, pseudo-économiques, portés depuis maintenant des décennies par la filière alcool. La question n'est pas d'abattre la filière, ni de l'amoindrir, ni de la fatiguer. La question c'est, on peut coexister entre un vrai discours de santé publique et le maintien d'une économie qui est une économie importante pour eux et pour le pays.
Le président de la Fédération française d'addictologie au micro RTL de Gauthier Delon-Bugard. De tout cela, nous parlerons évidemment avec le professeur Axel Kahn dans un instant. Première déclaration de Jean Castex, la situation ne justifie pas à ce jour un nouveau confinement. On s'en doutait, c'est confirmé. On marque une pause et on se pose une question. Avocat et juge, seraient-ils devenus interchangeables? À tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h10, suite du journal Amandine Bégaud. Et donc, les juges qui pourraient bientôt être remplacés par les avocats, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Une piste avancée par Éric Dupond-Moretti pour lutter contre l'engorgement des tribunaux. Entre la crise sanitaire et la grève des avocats, ils croulent encore plus sous les dossiers. Le problème, c'est que l'idée est loin, très loin même, de faire l'unanimité. Illustration au palais de justice de Nanterre, où vous vous êtes rendu, Cindy Hubert.
Au deuxième étage, un avocat sort d'un procès d'assises. Maître Fabien Araquelion vient d'apprendre comprendre qu'il allait peut-être devoir jouer au juge.
Si nous n'étions pas au mois d'avril, je me serais dit c'est un poisson d'avril, parce que pourquoi pas l'avocat qui devient escorte de l'administration pénitentiaire et puis dans quelques mois l'avocat qui fait le ménage du tribunal judiciaire.
L'avocat ironise, lui aussi, a une idée révolutionnaire pour avoir plus de magistrats. Eh bien, il faut en recruter. La vice-présidente du tribunal du syndicat USM acquiesce.
Ah ben, on est à l'os. La justice, c'est à l'os.
Exemple, hier, aux comparutions immédiates, Dominique Marciassi a fini à 22h.
Il y en avait 12 personnes à juger. On en a jugé 5. On a été obligé d'en renvoyer 7 parce qu'on n'avait pas le temps de voir leur affaire. Si on avait voulu les renvoyer, par exemple, sur la chambre qui s'occupe des affaires de mœurs, eh ben, on n'avait pas de date avant janvier 2022. Alors, supposons qu'on crée une audience supplémentaire avec des avocats. Très bien. Ça suppose quand même de trouver 2 magistrats de plus. Un avocat plus 2 magistrats. Il nous en manque déjà 12 à Nanterre. Il faut aussi trouver un procureur. Il nous en manque 7. Il faut trouver surtout des greffiers. On en manque de 30. Donc ça sert à rien de rajouter des avocats qui n'accepteront évidemment jamais d'être payés 8€ de l'heure pour aller à des audiences qu'on ne peut pas créer parce qu'on n'a pas les moyens de les créer.
Le groupe de travail doit rendre ses propositions au ministre fin mars, le temps de modifier éventuellement la loi au printemps.
Et Cindy Hubert au palais de justice de Nanterre pour RTL. La CGT-FSU et Solidaires étaient dans la rue aujourd'hui pour l'emploi et la défense des services publics. Première manifestation interprofessionnelle depuis plusieurs mois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas foule. Sébastien est un habitué des manifestations parisiennes.
Ça manque de monde. Là. Partir aussi vite de République, non, on l'a jamais vu ça. D'habitude, c'est serré. Là, on voit bien que c'est très léger pour une manifestation nationale. Vu ce qu'on vit en ce moment, c'est pas étonnant. C'est les effets de cette pandémie. Quoi. Les gens travaillent à 20%. On va pas leur demander de venir faire une manifestation avec un manque de personnel qui travaille pas. Donc, c'est très clairsemé. Là.
La crise sanitaire est en effet, bien sûr, sans doute passée par là. Témoignage recueilli pour RTL par Hortense Crépin. Le couvre-feu, lui, a visiblement plombé la consommation en baisse de moins 7% au mois de janvier. C'est ce qu'indique l'INSEE, qui table par ailleurs sur une croissance d'1,5% au premier trimestre, si et seulement si le pays n'est pas reconfiné. On part à présent pour Melbourne, Thomas.
Melbourne, à 3 jours maintenant du coup d'envoi de l'Open de tennis d'Australie. Les joueurs sont toujours cloîtrés dans leur chambre d'hôtel. Ça continue.
Après la découverte d'un cas seulement de Covid, Jean-Michel Rascol, ces joueurs, ils sont carrément coupés du monde.
Oui, le risque a beau être faible, 520 joueurs et officiels ayant fréquenté cet hôtel, le Grand Hyatt, lors de leur quarantaine, ont dû quitter les cours, les matchs de préparation pour ce nouvel isolement. Stefanos Tsitsipas, le grec, Stan Wawrinka, le suisse, comme Caroline Garcia, étaient concernés. Et la française ne manquait pas d'ailleurs d'humour dans la soirée en brandissant un nouveau test négatif, accompagné d'une photo où elle soulève des haltères en signe de victoire. Tennis Australia, qui organise l'événement, surveille de très près les commentaires, les conversations des joueurs sur les réseaux sociaux. Le tirage au sort a été repoussé de 24 heures. Cet Open d'Australie, rappelons-le, doit accueillir 30 000 spectateurs chaque jour. Le dernier mot reviendra aux autorités sanitaires de l'État de Victoria. Le chef de l'opposition, Michael O'Brien, a demandé une décision sous 24 heures afin de ne pas revivre ce qui s'était passé lors du dernier Grand Prix de Formule 1, dont l'annulation avait été annoncée alors que le public était déjà autour du circuit.
Et Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL.
18h14, enfin, voilà la bonne nouvelle.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et figurez-vous que c'est demain la journée mondiale de la plus célèbre des pâtes à tartiner. On va pouvoir se baffrer sans complexe.
Le Nutella ?
Oui, le Nutella. Vous savez combien on en mange en France ?
Trop.
2,7 kg chaque seconde, j'étais hallucinée par ces chiffres. 2,7 kg chaque seconde. 1 million de pots par jour en France, c'est colossal.
Incroyable.
Et le confinement du printemps dernier n'aurait pas arrangé les choses. La marque a vu ses ventes augmenter jusqu'à plus 50% à certains moments, notamment au début du mois d'avril, des chiffres livrés par nos confrères des Échos à l'époque.
Bon, il y a un peu trop d'huile de palme, mais bon.
Il en existe d'autres,
pas à tartiner. On a le droit de se faire plaisir au télétravail.
Mais c'est une bonne nouvelle, hein. Vous n'aimez pas ça, vous. Mais Peggy, la très bonne nouvelle, Amandine.
Voilà, un peu de chocolat fondu, tout ça, un truc un peu à l'ancienne, un peu rabat-joie.
Pour votre santé, limitez les
aliments. C'est ça. Merci à Grégory Carmi, le réalisateur, qui fait toujours attention à notre santé, comme d'ailleurs le professeur Axel Kahn, le président de la Ligue contre le cancer. Et il lutte également contre le coronavirus et il est tout de suite l'invité d'RTL Soir. À tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto.
RTL Soir, Thomas Soto.
On l'oublie, mais le cancer reste la première cause de mortalité chez les hommes, la deuxième chez les femmes, faisant au total 150 000 victimes chaque année en France. En cette journée mondiale de lutte contre le cancer, contre les cancers, Emmanuel Macron a donc annoncé une hausse de 20% de l'effort de guerre contre la maladie. Bonsoir et bienvenue à vous, Axel Kahn.
Bonsoir.
Vous êtes généticien et président de la Ligue nationale contre le cancer. Le budget de lutte pour les années 2021-2025, donc pour les 5 années qui viennent, va passer à 1,7 milliard. Alors, honnêtement, ces chiffres-là, on se dit que c'est beaucoup d'argent, mais on ne se rend pas vraiment compte. C'est un vrai effort, c'est bien, c'est insuffisant. Qu'est-ce qui vous dit à vous, ce chiffre ?
Écoutez, il faut l'utiliser au mieux, mais simplement pour donner une idée, le financement du premier plan cancer, lancé par Jacques Chirac de 2003 à 2007, était de 1 milliard. Donc vous voyez qu'à euro constant, c'est à
peu près... C'est pas spectaculaire en fait.
Voilà, c'est à peu près pareil.
C'est à peu près. Donc il n'y a pas d'effort supplémentaire.
Oh, je pense qu'il y a un effort, puisque le dernier plan cancer, c'était 1 425 000. Mais on voit très bien qu'il y a une évolution quand même en euro constant. L'inflation n'est pas ce qu'elle était à une certaine période, mais elle existe surtout pour ce qui est des matériaux scientifiques et des équipements de haute technologie. Et donc, in fine, je me satisfais réellement de cet effort, mais il ne faut pas dire qu'il s'agit d'une transformation qualitative de l'effort.
On parle beaucoup des laboratoires français qui n'ont pas réussi pour l'instant à sortir, entre guillemets, un vaccin anti-Covid. On parlera du Covid tout à l'heure, mais est-ce qu'en matière de recherche contre le cancer, on est bon ? Est-ce qu'on avance ? Est-ce qu'on progresse ?
Oui, il y a de très bonnes équipes de cancérologie en France, qui sont reconnus d'ailleurs au niveau international. La France a la réputation dans des domaines, la génétique, la cancérologie, aussi bien d'ailleurs dans le domaine des essais cliniques que dans le domaine de la recherche fondamentale, a la réputation de faire partie des grands.
Et Amandine Bégaud nous disait dans le journal de 18h, le chef de l'État veut une génération sans tabac pour ceux qui auront 20 ans en 2030. Vous y croyez-vous à ça ou pas ?
Écoutez, c'est également l'objectif de la Ligue depuis très longtemps. Il a parlé des espaces sans tabac. La Ligue en est l'inventeur, avec la première plage sans tabac à Nice en 2003, autant que je me le rappelle. Maintenant, il y en a 2000, 3000 dont la grande majorité sont portés par la Ligue contre le cancer. Ces espaces sans tabac sont importants. Est-ce que dans 20, dans 30 ans, dans 10 ans, il y aura une génération sans tabac? C'est un peu optimiste, mais se fixer l'objectif de cette utopie fait avancer. C'est possible.
C'est possible.
Il est possible de vivre bien sans fumer, évidemment.
Sur l'alcool, le chef de l'État était un peu plus flou. Il faut donner, a-t-il dit, à l'image de ce que nous avons fait pour les aliments, des repères à la fois plus visibles et plus lisibles aux consommateurs sur chaque produit. C'est un peu général. Alors aidez-le. Il faudrait faire quoi pour lutter vraiment contre l'alcoolisme en France ?
Nous, on a
faire boire tout,
on l'a
en
proposé.
Gros,
qu'est-ce qui a marché ? Je vais vous poser une question, Thomas Soto.
Oui.
Qu'est-ce qui a marché ? Pour quelle raison la consommation de tabac a-t-elle diminué ? Pour une raison avant tout.
Le prix du paquet, non ?
Le prix du paquet.
Oui.
Mais lorsque l'on a proposé de surtaxer les formes, par exemple, d'entrer dans l'alcoolisme des jeunes, la Ligue, par l'intermédiaire de députés qui nous soutiennent lors de la préparation des projets de loi de finances, de la sécurité sociale, deux fois, on a rencontré réellement un mur. Si on n'utilise pas l'arme du prix des boissons qui sont les plus addictives, celles par lesquelles notamment les jeunes tombent dans l'addiction, on n'y arrivera pas, je vous le dis. De ce point de vue-là, on voyait très bien d'ailleurs, une génération sans tabac, on agit sur les prix pour le plan tabac. Pour le plan alcool, il faut éviter les consommations excessives. On ne parle pas du prix, c'est effectivement...
C'est-à-dire quoi, les lobbies sont trop forts sur l'alcool ?
Voilà, non, la différence, elle est considérable, je la comprends bien. C'est qu'on ne cultive pas de tabac en France, alors qu'évidemment, on cultive de la vigne.
Oui. Vous avez vu passer, j'imagine, cette enquête réalisée par des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord qui nous disent que le vin pourrait bloquer le Covid.
C'est pas de Caroline du Nord, c'est de Taïwan.
C'est de Taïwan, bon, bah voilà.
Mais en tout cas,
est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que c'est efficace
ou pas ?
Ça ne
dit pas ça. Ça, c'est typiquement ce qui est scandaleux dans la manière de rendre les sciences. Mm-hmm. C'est un article de scientifiques de Taïwan qui disent qu'un composant du vin qui est l'acide tannique, mais composant d'autres substances également, l'acide tannique interagit avec une protéase qui sert de co-récepteur au virus. Et dans un modèle de cellules en culture, ils voient effectivement que cela agit sur l'entrée du virus dans les cellules. Jamais, 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 il y a le petit début de la démonstration que le vin protégerait de la Covid. Le vin donne le... Enfin, le vin... Moi aussi, je suis amateur de bon vin, c'est pas le problème. Mais on peut dire, si on est amateur de vin, le vin c'est bon pour la fête, il faut en boire modérément. Oui. Mais dire le vin protège contre la Covid, c'est un mensonge. Oui. Il n'y a pas le petit début. Ça, c'est typiquement, si vous voulez, le lobbying du lobby alcoolier. Ça me scandalise.
Bah, je suis tombé dedans, parce que je vous ai posé la question
ça. Ça me scandalise.
Je suis tombé dedans. On nous avait dit aussi que la cigarette permettait d'éviter de l'attraper.
Oui,
il y a quelques
mois. C'est exactement la même chose.
C'est la même chose.
Voilà.
Bon.
C'est, si vous voulez, lorsque l'ersatz de la science est utilisé par des lobbyistes dont la seule ligne d'horizon, c'est le profit. Mmh. Et le profit même au dépit et au dépens de la santé des personnes. C'est quelque chose qui est exactement ce contre quoi, à la Ligue, nous luttons de toutes nos forces.
Axel Cano, au moment où on se parle, Jean Castex et une partie de son gouvernement tiennent une conférence de presse sur cette pandémie, cette épidémie de Covid qui frappe toujours durement la France. Mais le Premier ministre vient de le dire, la situation ne justifie pas à ce jour de nouveaux confinements. Vous, la semaine dernière encore, vous étiez très favorable à un reconfinement. Alors avec le recul, vous dites quoi? Ils ont toujours rien compris? Ou oui, je me suis trompé, j'étais dans la cohorte des médecins un peu catastrophistes?
Non, cher Thomas Soto, ça n'est pas ce que je disais.
C'est ce que je disais,
et je redis d'ailleurs là, que le confinement est une décision politique.
Oui.
Moi, vous l'avez remarqué, je prends des positions, et même fortes, uniquement sur des éléments scientifiques ou médicaux.
Mais jusqu'à présent, les scientifiques avaient dicté le comportement du chef de l'État.
Oui,
on a l'impression que c'est un peu différent.
Mais moi, j'ai toujours dit que la vie politique n'est pas une démocratie sanitaire, uniquement. Les éléments sanitaires, c'est un des éléments. Donc, il prend ses responsabilités. Maintenant, il y a quand même un faux semblant. C'est que lorsque le Premier ministre dit « la situation sanitaire ne s'est pas modifiée de telle sorte qu'elle justifie un confinement », la réalité, c'est que la situation sanitaire est très mauvaise. On est encore dans le creux, dans le plein de la deuxième vague qui a commencé au début septembre. Et la deuxième vague a tué maintenant près de 48 000 personnes versus 30 000 pour la première. Tous les jours, si on additionne les gens dans les EHPAD, les gens en ville, plus les gens à l'hôpital, il y a 500 personnes qui meurent. Si on continue comme ça, là, dans quelques mois, on aura, nous aussi, atteint les 100 000 morts. Il y a des foyers infectieux dans les hôpitaux, avec des contaminations de malades, de personnes malades, et ce que l'on appelle des infections nosocomiales. Pour moi, la situation ne peut pas durer comme cela. Alors maintenant, c'est effectivement aux politiques de prendre une décision.
Mais ce que je dis, c'est que
cette décision, là, elle doit prendre en compte le fait qu'elle laisse perdurer une situation qui est extrêmement défavorable et inquiétante.
Donc médicalement, c'est une erreur de ne pas prendre des mesures plus fortes.
Médicalement, ou bien, ça dépend. Si on considère que politiquement, le prix à payer pour interrompre le phénomène dont je vous ai dit qu'il était désastreux est trop fort, je n'ai rien à dire. Oui. C'est véritablement aux politiques de prendre ses responsabilités. Moi, en tant que scientifique, je dis, la situation actuelle est extrêmement mauvaise. Il y a, vous savez, le faux semblant.
J'ai parlé de faux semblant.
Il n'y a pas de pic. Évidemment, il n'y a pas de pic. On est tellement haut qu'il n'y a pas de pic, que voulez-vous que je vous dise? Est-ce que l'on attend qu'il y ait un chapeau pointu d'un pic pour se rendre compte que peut-être les Français pourront admettre que la situation est grave? On est dans l'irrationalité. Oui. Bon, maintenant, il y a une situation qui est bien caractérisée. Personne ne peut la nier. Et le politique, en fonction de ses objectifs, de ses priorités, il prend ses responsabilités, je n'ai rien à dire.
Mais en tout cas, médicalement, vous dites que la situation ne s'arrange pas du tout. On a même, à vous entendre, l'impression que c'est de pire en pire.
En tout cas, elle ne s'arrange pas. La réalité, c'est qu'on est sur un plateau extrêmement élevé, avec 23, 24 000 contaminés tous les jours, avec un taux de positivité qui est de l'ordre de 6,7%, avec une incidence qui est de 230. La proportion est ça, Thomas Soto, c'est alors même qu'on n'a pas commencé de connaître les effets de l'arrivée des variants plus infectieux. Or, ils arrivent. Donc, chacun connaît ça. Ça sont les données. Ils font ce que leur décision politique, ce que leur vision de la stratégie leur commande. Rien à dire.
J'ai une dernière question sur les vaccins, ou plutôt sur un vaccin, le fameux vaccin AstraZeneca, qui ne semble pas avoir fait ses preuves chez les plus de 65 ans, qui, on le sait, est la population la plus fragile, la plus vulnérable au Covid-19. C'est quoi ce vaccin? Faut lui faire confiance? C'est de la poudre de perlimpinpin? C'est quoi ce vaccin?
Non, c'est une famille de vaccins. Il y en aura plusieurs. Les vaccins russes, c'est de la même famille. Les vaccins Johnson & Johnson.
Oui.
Johnson en Europe et Johnson & Johnson. C'est la même famille. Ce sont des adénovirus qui sont des virus responsables de maladies bénignes, un peu des rhumes, à qui on a ôté des gènes responsables de leur trait.
C'est un vaccin entre guillemets traditionnel. Voilà.
C'est pas traditionnel. C'est pas du tout traditionnel.
C'est pas traditionnel.
C'est du génie génétique.
D'accord.
Ce sont des virus recombinants.
Décidément, c'est tout faux.
Voilà. On a, dans ces virus-là, on a enlevé leur gène et on a mis à la place le gène qui code la protéine de spicule. C'est la même protéine de spicule qui est celle pour laquelle code l'ARN messager.
D'accord, mais est-ce qu'on peut leur faire confiance à ces vaccins? C'est ça
non,
la question.
Non, mais c'est un vaccin, c'est une stratégie qui était attendue, qui est traditionnelle. C'est la stratégie qui a été utilisée pour vaincre l'Ebola.
Ouais.
C'était déjà. D'ailleurs, il y a des deux types, au moins deux types de vaccins qui marchent contre l'Ebola. Le Johnson & Johnson, adénovirus, et le russe également adénovirus.
Mais donc on leur fait confiance ou pas?
On leur fait confiance
ou pas?
À l'heure actuelle, les performances du vaccin AstraZeneca adénoviral semble inférieure aux performances du vaccin Johnson & Johnson, mais qui n'est pas encore homologué,
oui.
Et semble nettement inférieure aux performances du vaccin russe. Mais le vaccin russe, il a une astuce. C'est qu'il fait une première injection avec un vecteur et une deuxième injection avec un deuxième vecteur. Si bien qu'il n'y a pas d'anticorps qui diminue l'efficacité de la deuxième injection.
Mmh.
Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, le vaccin russe de l'Institut Gamaleya semble très efficace.
Et bon, on apprend plein de choses avec vous. Merci d'être venu nous voir, Axel Kahn. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue contre le cancer, que la Ligue contre le cancer vit des dons de votre générosité.
Que des dons, que des dons.
Si vous voulez en faire, c'est très simple, vous allez sur le site de la Ligue contre le cancer, ligue-cancer.net.
Vous êtes formidable, Thomas.
C'est vous qui êtes formidable.
C'est vrai.
Voyez le Fayot qui est arrivé, tiens, Philippe Cabrières. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Alors, on vient de parler de cette journée mondiale de lutte contre le cancer avec Axel Kahn. Vous allez nous parler de Jean Castex, vous.
Oui, a priori, j'offre le livre de mon association, Léo, parce qu'il y a
absolument
des associations formidables contre le cancer pédiatrique. Merci à vous, Axel Kahn. J'adore l'énergie d'Axel Kahn.
Moi aussi.
Et en même temps, je trouve que Jean Castex aurait fait un formidable cancérologue. Parce que quand tu rencontres un mec qui t'annonce une mauvaise nouvelle, autant prendre un mec avec une tête et un accent rigolo. Le gars te dit, vous avez un cancer du pancréas. C'est triste. Alors qu'il te dit, oh bonne mère, vous avez le pancréas qui part en bibrine. C'est toujours une mauvaise nouvelle, mais c'est plus joyeux.
Et plus joyeux, c'est ce qu'on attend de vous juste après la pub et le rappel des titres. À tout de suite.
Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel.
Et à la une, cette nouvelle conférence de presse de Jean Castex, elle est toujours en cours. Sans surprise, le Premier ministre l'annonce, hein, pas question d'un nouveau confinement, pas pour l'instant. La situation, dit-il, ne le justifie pas à ce jour. Jean Castex appelle en revanche à chacun à maintenir ses efforts. Le télétravail, notamment, doit être impératif.
Télétravailler partout où c'est possible devient impératif. Il y a encore trop de milieux professionnels où le télétravail serait possible, mais n'existe pas du tout ou à des niveaux très faibles. Les administrations publiques doivent en particulier montrer l'exemple et j'y veillerai.
Reconfinement décrété en revanche à Mayotte, hein, et ce au moins pour 3 semaines. Concernant la vaccination, le Premier ministre assure que tous les résidents d'EHPAD qui le souhaitent auront reçu leur première dose d'ici la semaine prochaine. Il annonce par ailleurs 500 000 nouveaux rendez-vous dès demain pour la fin février. 1,2 million au mois de mars.
La météo Peggy pour demain.
Et demain, aujourd'hui, on a encore 14 départements en vigilance orange crue. Et demain, comme aujourd'hui, de faibles pluies entre l'Aquitaine, l'Alsace, de part et d'autre. Beaucoup de nuages, mais quelques éclaircies vont revenir par la Bretagne et le sud-ouest. Le tout sous des températures encore douces, de 9 à 17 degrés pour les maximales.
Merci Peggy. Philippe Cavrivière,
oui,
rivé sur l'actualité, hein. Jean Castex et Olivier Véran viennent de prendre la parole. Ils ont parlé vaccination, couvre-feu, les doses supplémentaires. Pas de confinement pour l'instant, sauf à Mayotte, ça avait été annoncé avant. Alors ?
Oui, ben Véran et Castex, c'est le service après-vente des décisions.
Service après-vente des décisions.
Oh, c'est Omar et Fred, mais bon, sans les vannes quand même. Hein. Bon, pour l'instant, si j'ai bien compris, donc on ne reconfine pas. Car Macron l'a dit, il mise tout sur l'intelligence et le civisme des Français.
Oui.
Bon, autant dire que c'est foutu, on y va tout droit. Ah oui, c'est pas simple pour vous les journalistes quand même, parce que vous savez pas ce que Castex va dire, mais il faut que vous en parliez quand même.
Oui.
Vous n'êtes plus des journalistes, quoi. Vous êtes des turfistes, quoi, des pronostiqueurs. Votre conf de rédac à RTL, c'est devenu un PMU, quoi. Tu m'avais un demi pour Yves Calvi, un Picambière pour Pascal Pro, les Grenadines pour Soto et un double 51 pour Nathalie Hoche. Oh. Tu joues quoi, Calvi? Bon, moi, je joue le reconfinement à 5 contre 1 à 4e. Ouais, c'est facile pour personne. Les chiffres sont pas bons quand même. Vous avez vu, il y a une augmentation du Covid dans les eaux usées. Oui. Et en même temps, on s'en fout. Qui se baigne dans les eaux usées? À part, bien sûr, Randall Schendorfer, maître Kratos, l'avocat du Jojo Gelbéton.
Absolument, Jonathan Daval. Alors, on parle beaucoup du Covid aujourd'hui, mais Philippe, vous êtes un peu notre chevalier du ciel, de l'actu. Vous avez tout survolé pour nous.
Je survole énormément. Je suis allé picorer les mots de l'actu pour qu'on saisisse un peu l'ambiance du moment, la vibe. Alors, dans l'actu, j'ai un troisième confinement qui arrive, un couvre-feu, des inondations, merci Peggy, un plan cancer, un peu d'inceste, réanimation. Pédophilie.
Ouais. On ne sait que choisir.
Oh bah oui, Thérèse, on ne sait que choisir dans cette joyeuse actu.
Mais tout n'est pas si noir, Philippe, il y a beaucoup de gris. Je crois que vous avez déniché une bonne nouvelle.
C'était pas simple, mais j'en ai une. Dans le Huffington Post, ça va vous faire plaisir à tous, l'enveloppe de dotation matérielle des députés a été augmentée de 15%. Quel soulagement! What a release, Spencer! On est parti. Alors, ça fait plus de 1 842,50 € par an. On est content pour eux. Alors, c'est pour leurs déplacements et les événements. Alors, vous allez me dire, oui, mais les événements et les déplacements avec la pandémie, il n'y en a plus. Oui, ben, c'est pas grave, ils arriveront à le dépenser quand même. Attention, je vous vois venir.
Oui.
Stop à l'anti-parlementarisme primaire, car pour les grandes causes, nos députés sont exemplaires. Les Républicains, le RN, la France Insoumise, les Républicains En Marche ont réussi à se mettre d'accord sur une vraie question. On s'augmente, les copains? Ouais. Bon, il y a eu des bisbilles quand même. Il y en a qui disaient, bon, plus 10%. Ils disaient, non, c'est pas assez. Plus 96, c'est bien, mais ça va se voir. Ils ont dit, allez, plus 15, ça va passer crème. D'ailleurs, depuis leur augmentation, dans un souci d'exemplarité, nos élégants députés ont insulté leur collègue Mathilde Panot.
Ah oui, vous faites allusion à ce qui s'est passé. La députée de la France Insoumise, Mathilde Panot, qui s'est fait traiter de folle et de poissonnière.
Alors, c'est chic, je trouve. Alors, c'est peut-être vrai, on la connaît pas, cette dame. Nos députés... Malins qu'ils sont, ils se sont dit, je suis planqué derrière le masque, on va pas me voir, on va pas se faire gauler. Ils ont fait, poissonnière, morue. Du coup, c'est vrai que ça nous fait plaisir d'augmenter ces messieurs.
Bon, allez, sans transition, il y a une vidéo dont tout le monde parle en ce moment, c'est celle de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui a participé. Qu'est-ce qui se passe, Peggy?
Qui a participé la vidéo
à une séance de sport en école primaire.
On a tous vu ces images terribles de Blanquer qui danse en gymnase. Bon, Jean-Mimi a la danse dans le sang, mais une mauvaise circulation. C'est le truc le plus gênant que j'ai vu depuis Lionel Jospin qui chantait les feuilles mortes chez Patrick Sébastien.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Référence qui vous passe au-dessus si vous avez moins de 65 ans.
Bon, ça va, hein.
Alors, toutes les vannes ont été faites sur ce pauvre Jean-Mimi. Moi, je ne suis pas dans la moquerie, Thomas.
Non, c'est vrai.
Moi, j'ai pensé à sa compagne, la journaliste Anna Cabana. Quand même, c'est quand même la chouma pour elle parce que la vidéo est passée 137 fois sur BFM.
1737 fois, je pense.
Ouais, vous avez vu, tout le monde a dû se foutre de sa gueule à la rédac. Est-ce que le couple va survivre à une telle épreuve?
Ouais.
Non, c'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'objectivement, elle est très belle, Anna Cabana. J'en parlais hier à Nathalie Saint-Cric, qui me disait, moi aussi, si je passais deux plombes au maquillage comme toutes les poufs de BFM, eh ben moi aussi, je serais une bombasse. Alors, je lui ai dit, j'ai confirmé. Et je lui ai dit, Nataloche, file-moi les clés de ta bagnole, tu vas encore finir dans un platard.
Oh. Allez, on va revenir plutôt sur la danse de Jean-Michel Blanquer. Pour vous, c'est de la com' politique, hein. Vous n'avez pas été convaincu.
Mais non, et puis c'est même dangereux. Si tous les ministres faisaient comme Jean-Mimi, vous imaginez le bordel? Je n'ai pas envie que pour sauver la culture, Roselyne Bachelot rejoue la vie d'Adèle avec Jacqueline Gouraud, tiens. Je dis ça au hasard, vous avez vu le film? Les scènes des ciseaux, là.
Non, arrête. L'autre sujet de la semaine, ce sont ces accusations d'agression sexuelle qui ont visé François Asselineau.
Ça n'arrête pas. Aujourd'hui, François Asselineau, hier Richard Berry, avant-hier Marilyn Manson. C'est une par jour. C'est comme un calendrier de l'Avent. Tu ouvres une petite fenêtre, hop, il y a un sgeg qui sort. C'est le calendrier de l'avance. Alors, je sais, il ne faut pas se fier aux apparences. Pas de délit de sale gueule. Dans le cas de Marilyn Manson, bon, on avait des soupçons quand même. Avec sa tête d'organisateur de messes sataniques, On l'imagine mal faire un petit missionnaire à maman et manger un Activia avant d'aller se coucher. Oh. Alors que Vianney pourrait faire un génocide, le procureur lui demanderait un autographe et il ferait un selfie avec le jury. C'est injuste la vie.
Ouais, que voulez-vous ? Vous voulez dire un mot également à nos étudiants parce qu'ils n'ont pas le moral, Philippe ?
Alors, il y a deux raisons à la déprime des jeunes. Oui. Il y a une raison affective et une raison financière. Ils n'ont plus une thune et ils ne font plus de rencontres amoureuses. En fait, il y a une certaine justice grâce au Covid. Tous les étudiants vivent désormais la vie d'un étudiant moche et pauvre, comme nous, Thomas. Hey, on a survécu, on est là, quoi.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, vous allez faire quelque chose pour le pouvoir d'achat des étudiants, Philippe, ou pas ?
Oui, alors je vais leur donner 130 millions d'euros, car j'ai ici les numéros gagnants de la super cagnotte de l'euro million de demain.
Ah, vous êtes sûr que c'est les bons ?
Non. Et c'est comme la politique du gouvernement. Il est possible que je tape à côté, mais je me lance. Alors, demain, il faut jouer le 2,
oui.
Le 6,
oui.
Le 8,
oui.
Le 23,
oui.
Le 25 et oui. Les deux numéros étoiles, le 2 et le 5.
Le 2, le 6, le 8, le 23, le 25.
C'est les numéros gagnants.
Le 2, et c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont le faire.
Si je gagne, c'est con. Alors si je gagne, bien sûr, je vous dis pas à mardi parce que je vous aime beaucoup, mais j'aurai autre chose à foutre.
Évidemment. De toute façon, on va tous jouer les mêmes numéros, vous gagnerez
et
pas
oui,
grand-chose.
On ne gagnera pas 130, c'est con.
Pour diviser par 3-4, ça va. Hein.
Ouais, bah, tous, il y a quelques-uns qui écoutent, il y a eu au moins 3-4 qui écoutent, j'espère. Hein
j'espère.
On espère aussi. Bon, du coup, à mardi, hein, Philippe.
Bah, je pense.
Mais vous savez que dans la catégorie, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a celles que l'on doit excuser, comme vous, après chaque chronique, Philippe. Et puis, il y a celles qu'on ne présente plus, comme le chanteur Slimane. Slimane, qui est l'invité d'RTL Soir tout de suite. Et c'est en direct.
RTL Soir. Thomas Soto. RTL Soir.
Si c'était un sportif, on vanterait son palmarès et on se dirait qu'on a affaire à un sacré champion, vainqueur de la 5e saison de The Voice en 2016. Son premier album à bout de rêve a été numéro 1 en France, en Belgique, en Suisse romande. Le deuxième, Solune, a aussi été numéro 1. En 2020, il a été le plus gros vendeur de disques du pays grâce à son album Versus, qu'il interprète avec Vita notamment. Versus, disque de diamant. Et il vient également de composer le dernier hymne des Enfoirés. Pardon. Slimane est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Slimane.
Bonsoir.
Bienvenue à RTL Soir.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche.
Aznavour. Je crois que vous êtes fan depuis votre plus jeune âge. Hein.
Oui, j'aime beaucoup. Aznavour, Brel, toute la grande variété française, j'aime particulièrement.
En haut de l'affiche, aujourd'hui, vous y êtes, Slimane. Qu'est-ce que ça vous fait ? Comment ça se passe quand on est tout là-haut, là ?
On réalise pas. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup le vertige. Donc, peut-être que vaut mieux pas que je réalise.
Bon. C'est-à-dire, on vous a invité ce soir, c'est pas pour écouter du Aznavour, c'est quand même plutôt pour écouter du Slimane. Quand t'es pas là, toi. Donne avec Vita. J'ai regardé, je crois, 33 millions de fois écouté sur YouTube.
Ah oui ?
Ouais. Là, quand on a dit que Slimane venait, c'était les mois partout, les gens veulent vous voir, etc. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec Vita ?
J'avais repris sa chanson. C'est la première chanson que j'ai chantée sur The Voice. Et ensuite, on s'est vraiment rencontrés sur... on a été coach, en fait, de The Voice Belgique.
Ensemble ?
Tous les deux ensemble. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et elle m'a invité sur son album. Et c'est là qu'on a fait Je te le donne, d'ailleurs.
Ouais.
Et à partir de ce moment-là, on s'est plus vraiment quittés. Et on a décidé de faire cet album Versus.
Le truc, c'est qu'avec vous, Slimane, on a l'impression que tout le monde vous aime et que tout le monde est votre ami. Vous êtes vraiment amis avec tous, avec elle, avec Jennifer. Avec Jennifer, elle a versé des canadaires de miel sur vous. Elle parle de vous avec des étoiles dans les yeux.
Je crois qu'il y a une génération là d'artistes qui s'entend bien, qui partage aussi. Pendant un moment, c'était un peu sectaire, hein, la musique populaire. C'était chacun de son côté, chaque style de son côté. Et il y a de plus en plus maintenant de feats, de gens qui travaillent ensemble, de gens qui écrivent pour les autres, etc. Donc forcément, ça on tisse des liens quand on fait une chanson. J'ai eu la chance d'écrire une chanson pour Jennifer. Du coup, on parle, on se raconte, et après, il y a de grandes chances qu'on devienne amis. Et c'est vrai qu'à force de travailler avec tous ces artistes-là, c'est en train de devenir une petite famille.
Il n'y a pas de jalousie, non, entre
Non, au contraire. Si on peut tous s'entraider, c'est mieux ça que de se tirer dans les pattes.
Bon, en tout cas, avec Vita, ça fonctionne très bien. Écoutez, tiens. Détruis-moi, c'est toi de moi. Je peux tenir encore. casser un peu le son, on va la garder en fond parce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour vous, écoutez.
Mon cher Slimane, tu sais le respect que j'ai pour toi, tu sais le plaisir que j'ai à écouter ta musique et à découvrir à chaque fois tes chansons. Et surtout la passion que j'ai pour la photographie, surtout lorsque je photographie tes mains. Tes mains sont spectaculaires, elles portent en elles beaucoup de signes, beaucoup de mémoire. Et en même temps, ces tatouages que je photographie maintenant depuis quelques années, mais dont je ne connais pas l'origine, je ne connais pas la signification. Que signifie ces tatouages d'astres, je crois, sur tes mains, mon cher Slimane?
Question de Nico.
Nico, c'est quelqu'un que je respecte énormément, qui a été incroyable avec moi dès le début et qui m'a beaucoup appris sur ce milieu, sur plein de choses. Les astres qu'il y a sur mes mains, donc c'est la lune et le soleil, et ça représente un peu l'ambivalence, se donner le droit d'être lumière et d'être sombre aussi, se donner le droit d'être masculin et d'être féminin aussi, se donner le droit d'être soi, en fait, c'est ça que ça veut dire.
Quand est-ce que vous avez décidé de vous faire tatouer? C'est marrant, quand il a parlé de vos mains et de vos tatouages, vous les avez mis sous le pupitre. Hein, c'est marrant, vous les avez cachés.
Ouais, non, parce que c'est... je l'explique parce que c'est Nikos qui l'a demandé, vraiment, sinon j'aurais pas accepté.
Sinon, vous l'auriez pas dit.
Ouais, je trouve que c'est super personnel.
Mais en même temps, vous montrez ce que vous voulez cacher, parce qu'on les voit.
Oui, mais si j'avais voulu qu'on sache ce que ça veut dire, j'aurais écrit une phrase.
Ah ouais, bon, alors on va pas être trop impudique quand même. Bon, si je vous dis maintenant, graver l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vous l'avez ou pas?
Ouais, c'est pas toi de Goldman. C'est la première chanson que j'ai chantée devant ma famille.
Mais racontez-nous cette histoire, parce que j'ai effectivement lu que c'était la première chanson que vous avez chantée, mais j'ai pas le contexte.
En fait, c'est comme ça que je crois que je suis devenu chanteur. C'est que, en gros, mes parents regardaient une émission de télé, Graines de Star à l'époque.
Sur M6,
ouais. Et en fait, ils regardaient l'émission, il y avait un petit qui chantait. Et moi, ça m'a énervé. Je suis le premier de ma famille, j'ai un rapport très fusionnel avec ma mère. Donc je lui ai dit, mais moi aussi, je sais chanter. Hein. Et elle m'a dit, bah vas-y, chante. Et donc elle a éteint la télé et je lui ai chanté cette chanson et c'est à partir de ce moment-là que je crois que je me suis rêvé chanteur.
Là vous êtes dit j'y vais quoi.
Ouais, c'est là que ça a commencé, c'est la première fois que j'ai eu un public, j'ai vu l'amour de ma mère dans ses yeux, ça, je crois que c'est comme ça que je suis devenu accro quoi.
Vous avez quel âge?
Alors, je devais avoir, 10 ans.
10 ans?
Ouais.
Alors vous avez au moins un point commun avec Goldman, c'est que de très nombreux artistes, donc on en parlait avec Jennifer, on en parlait avec Vita, vous demandent d'écrire pour eux, Florent Pagny, Patrick Fiori, Amel Bent également. Comment on fait pour écrire pour les autres? Kenji et Pagny, c'est quand même deux salles, deux ambiances, quoi. C'est pas la même chose.
On revient au tatouage. Je crois que je suis un peu.
C'est vous qui revenez au tatouage.
Ouais, non mais moi, j'y reviens, mais je crois que je suis un peu de tout ça. J'ai eu la chance de grandir dans une famille très mélomane. J'écoutais aussi bien du rap, du rail, de la funk, de la variété française. Donc déjà, j'ai tout ça, je crois, à l'intérieur de moi. Et je suis quelqu'un qui aime les gens. J'aime parler, j'aime qu'on me raconte, j'aime comprendre l'autre. Et une fois que tu as compris à peu près qui était l'autre, ben tu peux essayer de te mettre à sa place.
Vous essayez de vous mettre dans leur peau, dans leur tête,
ouais,
dans leur cœur, dans leur esprit.
Toujours, ouais. Mais c'est ce travail qui m'intéresse follement. C'est de me dire, bon, là, si j'avais été, par exemple, si j'avais été Pagny, qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Et c'est essayer de le faire au mieux.
Alors, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question pour vous.
Salut Slimane, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai une petite question. Hormis les chansons que tu fais pour toi, que tu composes, que tu écris, et celles que tu fais aussi pour les autres, quelle est aujourd'hui la personne avec qui tu aimerais profondément travailler? Quel est cet artiste? Tu peux nous en dire plus?
Question 2.
Lâche-toi.
De Patrick Fiori.
Je t'embrasse.
C'est une très bonne question. J'ai un doux rêve, c'est de travailler avec Céline Dion.
Ah, c'est vrai?
Ouais, j'aimerais beaucoup. Parce que je suis un inconditionnel de l'album 2. Que je trouve que c'est l'un des meilleurs albums qui a été fait en français en tout cas et c'est juste un cadeau pour un auteur-compositeur d'avoir une voix aussi incroyable, donc ouais, ce serait un honneur.
Mais envie de composer pour elle ou de chanter avec elle?
Déjà composer et écrire, ça serait incroyable. Ouais. Après chanter, bon là c'est encore autre chose.
Vous pouvez demander à Goldman, hein, ils se connaissent bien.
Ouais, mais je connais pas très bien Goldman.
Alors quand vous dites j'ai un doux rêve, Slimane qui est quand même le plus gros vendeur de disques de l'année dernière en France, quand il a un doux rêve, il se dit c'est un rêve, tant pis, je me sens encore dans ma tête, ou il prend son téléphone, il décroche, il va voir les.
Non, en fait,
c'est les patrons de maison.
Non mais je crois beaucoup au karma. La preuve, c'est que j'ai accepté de travailler avec un artiste que je connaissais pas trop, qui a pas encore sortie d'album et j'ai entendu sa voix et j'ai trop aimé, donc j'ai dit allez, c'est vas-y, on y va. Je lui ai écrit deux chansons et il s'avère qu'en fait sa manageuse, j'ai commencé à parler avec elle et c'est la manageuse de Céline Dion.
Ah, comme et, quoi. Il s'appelle comment cet artiste, on peut le dire ou pas?
Antoine. Antoine. Ouais, Antoine Daly. Il est super, il a fait The Voice.
Il a fait The Voice, ouais. C'est une bonne école, hein, décidément.
Et du coup, oui, je lui ai dit, hein, je suis quelqu'un de très franc, moi je lui ai dit franchement, si un jour il y a besoin de chansons, j'ai vraiment envie de la rencontrer.
Mm-hmm. Mais on peut vous passer commande si je vous dis tiens, Slimane, tu peux bien m'écrire un duo, ça peut marcher? Vous dites non parfois?
Ça m'a, dire non comme ça, c'est dur, mais ça, ouais, ça m'est déjà arrivé d'esquiver, je dis ouais. La vérité. Mais parce que des fois, c'est juste que j'ai pas l'inspiration, que j'ai pas envie de faire quelque chose.
Si je vous demande avec qui vous avez esquivé, vous allez remettre les mains et.
Non, c'est pas forcément des gens que vous connaissez. Non.
Donc mais ça serait pas très sympa en plus.
Non, mais après, c'est vrai que la plupart du temps, j'ai eu la chance, franchement, d'aimer les gens qui m'ont proposé de travailler avec eux et à chaque fois, ça a été incroyable.
Donc vous aimez les autres, vous aimez travailler pour les autres, vous aimez écrire pour les autres, vous aimez chanter avec les autres, mais est-ce que vous pensez à vous quand même un peu parfois?
Mais tout ça, c'est penser à moi.
Ouais.
Quand j'écris une chanson, même si c'est pour quelqu'un d'autre, au contraire, c'est un exercice incroyable parce que je peux dire des choses que moi je pourrais pas dire de moi-même ou que même j'assume mais pas trop. Même me mettre dans la peau d'une femme, c'est incroyable d'écrire pour une femme, je trouve ça fou. Donc non, à chaque fois c'est un cadeau.
Il y aura un album bientôt avec vous qui chanteriez seul un peu parce que vous êtes toujours en duo, en trio.
Oui, bon, sur trois albums j'en ai fait deux solos quand même.
Ouais.
Mais oui, le quatrième, et d'ailleurs je suis rentré en studio, ça y est, ce sera un album solo.
Il sortira quand?
Franchement, j'espère après avec le coronavirus, on sait plus rien. Donc j'espère pouvoir délivrer quelque chose cette année, pas l'album, mais en tout cas peut-être une chanson. Et l'album,
2021.
L'album sûrement 2000. Là on est en 2021.
Non, en 2021.
Ouais. Ouais, l'album 2022.
Alors on parlait de Goldman tout à l'heure. Goldman, évidemment, c'est les Restos du Cœur. Cette année, la chanson des Restos, elle est signée Slimane et elle s'appelle Maintenant. C'est peut-être mon oreille qui est défaillante, on peut rien exclure, mais j'ai l'impression que vous chantez pas sur ce titre, si?
Non, je chante pas.
Pourquoi?
Déjà parce que je trouvais que ça faisait un peu trop. Le mec, il écrit la chanson et il se place, il chante. Donc je voulais.
Vous avez peur de déranger, vous? C'est pas possible.
Non, je dérange pas. Mais non, parce que moi, je suis plus là que tous les autres. Finalement, c'est moi qui ai fait la chanson. Donc moi, je me suis exprimé, ça y est. Et j'avais envie que les autres s'expriment. Et s'il y a un endroit où justement, il faut mettre l'ego de côté et tout ça, c'est sur les Enfoirés. C'est un honneur pour moi d'avoir.
C'est une fierté pour vous?
Ah mais j'ai pleuré comme un enfant la première fois que j'ai entendu toutes les voix dessus. Vraiment, c'est que des idoles. C'est Florent Pagny, c'est Patrick Bruel, Zazie, quoi. C'est des gens avec qui c'est des gens qui m'ont fait rêver quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, ils chantent une de mes chansons pour en plus une aussi belle cause. C'est fou.
On l'entend, on le voit, tout ce que vous composez, tout ce que vous chantez se transforme en or artistique. Hein. Vous n'avez pas peur que ça finisse par vous faire tourner la tête, Slimane?
Non, parce que, je sais pas, j'ai pas été élevé comme ça. Et puis, j'ai pas ce, je le dis toujours et ça paraît peut-être même déplacé pour le public. Des fois, mon équipe, elle me dit arrête de dire ça. Mais moi, si demain ça s'arrête, je serais pas malheureux.
Arrête de dire ça.
Mais non, mais c'est vrai, dans le sens où j'aurais vécu j'ai eu la chance de vivre ce métier pleinement, d'être épanoui et d'avoir aussi conscience. Je crois que la nouvelle génération d'artistes, elle a conscience de l'effet de. On sait que c'est plus compliqué pour nous de durer 20 ans, 30 ans comme les autres ont pu le faire avant. Donc je crois qu'inconsciemment on est préparé. Moi, tout ce que je sais, c'est que je vis ce truc à fond et que je serai jamais aigri. Moi, j'avais peur d'être un artiste aigri et aujourd'hui, je le serai plus.
Vous avez quel âge aujourd'hui?
31 ans,
ça va. Vous avez une image de garçon très sage, très raisonnable, un artiste créatif qui est dans son truc. Vous l'êtes vraiment ou pas?
Non, pas du tout.
C'est vrai?
Non, sage et raisonnable, non, pas du tout. Artiste, j'espère. Mais non, je suis complètement fou, je suis dark, je suis à la limite de la bipolarité. Non, je rigole. Mais je suis...
Et là, il sort une arme.
Non, c'est pas bien de rigoler en plus sur ça parce que c'est un vrai truc. Mais je suis vraiment... très, très fêtard. J'aime la vie.
Pour finir, on vous a demandé, en préparant cette émission, quelle chanson vous aimeriez écouter. Et vous nous avez dit Shape of My Heart de Sting, qu'on va écouter. Et en même temps, vous allez nous expliquer ce choix.
Je trouve que rien que le riff de guitare, il te met dans un... autant je suis fêtard, c'est là où je dis que j'ai un petit côté ombre et lumière. C'est que moi, des fois, je peux mettre une chanson rien que pour pleurer, parce que j'ai envie de pleurer.
Et vous l'écoutez 250 fois de suite ou pas?
Ah ouais, vraiment. Et le riff de cette guitare, il m'emmène très très loin. Et puis quand même, c'est la BO d'un des films les plus cultes au monde, Léon.
sacred geometry of chance.
Je suis partagé parce qu'à la fois on a envie de continuer à écouter Sting. Évidemment, on va vous remercier d'être venu. Puis on a quand même envie de remettre un petit coup de la chanson des Restos du Cœur parce que c'est la cause.
Oui, c'est important, encore plus cette année.
Hein, plus que jamais. On va faire 30 secondes de Sting. Et après, on va repasser au resto. On sera très en retard, le jour de 19h, il sera peut-être le jour de 19h10. Mais c'est pas très grave, il faut se faire plaisir dans la vie.
Il faut, c'est très très important, surtout en ce moment.
Vous préférez écouter de l'or ou restaurant?
Les restos, ouais, c'est important.
Alors c'est parti, merci infiniment Stéphane d'être venu nous voir, merci beaucoup.
Merci.
Et là quand il a écrit allez, 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 c'était pour dire à Peggy, allez, allez, c'est la météo maintenant.